Canal Académie.
Unique centre national du patrimoine de la chanson, le Hall de la chanson est né en 1990. Sa mission, sauver de l'oubli ou de l'obsolescence des œuvres chantées. Lieu de recherche, de création et de transmission, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro de Canal Académie son fondateur et directeur Serge Hureau. Serge Hureau, bonjour.
Bonjour.
Alors ce n'est pas la première fois que vous venez au micro de Canal Académie, puisqu'il y a à peu près une dizaine d'années, vous étiez venu ici avec un invité de renom, Monsieur Charles Aznavour, dont la naissance est d'ailleurs inscrite au calendrier des commémorations nationales 2024 de France Mémoire, ce qui témoigne du lien qui peut exister entre chanson, mémoire et patrimoine.
Alors il était important pour nous, Charles Aznavour, parce qu'il y a maintenant un peu moins de 10 ans, on a eu l'idée de créer une école supérieure d'interprétation de la chanson, et il était notre parrain, le parrain de l'école. Il a tout de suite compris qu'il fallait ça, parce que connaître des chansons du passé, même des chansons qui ont des siècles, hein, puisqu'il s'agit de ça, c'est bien. Mais savoir les chanter d'une façon qui parle aux oreilles d'aujourd'hui, qui montre que ce ne sont pas des choses désuètes ou des choses qui ne sont pas de mode, arracher même la chanson à la mode, c'est une chose essentielle. Une chanson qui a 400 ans, ce n'est pas une question de mode. La chanson a été liée à la mode que depuis récemment, je dirais depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant, elle était un objet qui se transmettait autrement, si vous voulez, que par le vedettariat. Alors donc, il fallait un lieu national, ça veut dire subventionné entièrement par le ministère de la Culture et un petit peu la SACEM, pour qu'en fait, on conserve, pas les œuvres, puisqu'elles sont déjà conservées à la Bibliothèque nationale de France, mais qu'on les valorise. Et qu'on les valorise en les faisant entendre, peut-être un petit peu différemment que dans des enregistrements. Mais il y a des centaines, des milliers de chansons qui n'ont jamais été enregistrées.
Vous soulignez là le lien entre chansons, mémoire et patrimoine, et c'est justement l'ambition de votre établissement de mettre en évidence ce lien. Mais alors la question, c'est comment vous faites et quel est le rôle du Hall de la chanson ?
Le Hall de la chanson est vraiment là pour que les gens les connaissent, ces chansons-là, et que les chansons ne soient pas simplement pour les spécialistes qui peuvent chercher en allant à la Bibliothèque nationale ou ailleurs, ou même sur le net. Aujourd'hui, vous cherchez, si vous êtes curieux, vous trouvez des choses qui ne sont pas toujours fiables, mais vous trouvez des choses. Ça veut dire faire en sorte que les gens connaissent les œuvres elles-mêmes, et pas simplement les commentaires sur les œuvres, et aller peut-être au-delà de la mémoire. Parce que mémoire, ça veut dire encore quelqu'un qui s'en souvienne. Mais il y a des œuvres dont plus personne ne peut se souvenir parce qu'elles sont trop anciennes. Eh bien, ces œuvres-là, qui sont les œuvres, en fait, du patrimoine, au-delà de la mémoire, sont des œuvres d'héritage dont on peut faire quelque chose ou pas. On pourrait s'en passer, mais ça serait dommage. Mais de même, on pourrait se passer de Molière ou de Victor Hugo, ça serait dommage. Eh bien, c'est pareil pour une chanson, en fait. Et les chansons vont loin parce qu'elles sont à la fois des œuvres, avec ce que ça veut dire d'impressionnant, c'est-à-dire, mais jamais je pourrais écrire ça, qui est la personne qui a écrit ça. Et ce sont aussi des reflets des mentalités.
Justement, depuis tout à l'heure, on parle du hall de la chanson et non pas de la musique. Peut-être qu'il serait intéressant de définir ce qu'est une chanson, quelle est sa spécificité, qu'est-ce qui la différencie de la musique en fait.
Une chanson, c'est de la musique avec des paroles en plus. Voilà. La musique est très importante, mais c'est vrai que la question du sens est essentielle. Aujourd'hui, on parle moins de musique que de son. On dit du son. Eh bien, c'est du son et du sens. Ça, c'est très important. Et c'est un lieu de la langue française, mais pas seulement. Vous voyez, par exemple, un grand poète comme Jacques Prévert, quand il écrivait des poèmes, il disait « c'est des poèmes ». Mais quand il écrivait des chansons, il disait « c'est une chanson ». La chanson, c'est très proche de l'oralité. Vous voyez, par exemple, la grande, depuis maintenant 40 ans, est arrivé en France le hip-hop. Alors le rap, le slam, etc. C'est une forme de chanson. La chanson, c'est un terme générique, si vous voulez, c'est global. Et dans la chanson, il y a des styles différents. Par exemple, ce que l'on entend dans le rap ou le slam, en fait, dans les années 30, vous aviez des gens qui faisaient ça, qui faisait une espèce de chanter-parler, une femme qui s'appelait Marianne Oswald. Et c'était le poète Jean Cocteau qui lui avait donné l'idée de dire les textes. En 1900, vous aviez une femme, Yvette Guilbert, qui, elle, était une diseuse. Et on ne sait plus si ça parle ou si ça chante. Vous voyez, c'est assez proche du conte aussi, la chanson. C'est toutes ces arts de l'oralité. Et bien avant, jusqu'au Moyen-Âge, vous avez d'autres formes. Par exemple, les troubadours. Les troubadours ne chantent pas, ne chante pas comme Brassens, par exemple, même si lui les connaît, et puis en plus c'est souvent les Occitans, et lui il était d'Occitanie, mais il racontait, c'était du chanter-parler, avec des scansions de tambour plutôt. C'était pas du tout de la chanson ou de la musique comme on l'entend aujourd'hui, ou quand même comme on l'entendait il y a 100 ans. Donc c'est très étonnant de se dire, c'est quoi ? Oui, c'est des paroles et de la musique. Au théâtre, généralement, il n'y a pas de musique. Parfois, ça manque. Souvent, la musique, ça nous aide à bien comprendre. Quelqu'un qui serait pris dans sa prosodie de Racine, sans nous faire comprendre ce que Racine dit, c'est embêtant. La prosodie, c'est une forme de musique, si vous voulez. Mais la chanson est cet alliage des deux, avec un côté accessible directement.
Et cette notion de chanson, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. En quoi est-ce qu'elle peut être considérée comme un patrimoine, une trace du passé qui permet de comprendre notre histoire ?
Il suffit de les écouter ou de les lire. Grâce à une chanson, même une petite chanson qui paraît rien du tout, vous pouvez savoir comment un homme et une femme se parlaient il y a plusieurs centaines d'années. Et c'est essentiel, des choses comme ça. Ce que les gens pensaient de tel ou tel moment de la société ou de l'histoire de notre pays, comment les gens réagissaient. Il y a là, si vous voulez, une expression de ce que les historiens appellent les mentalités ou les sentiments, une histoire des sentiments. On peut savoir comment on parlait aux enfants, si les enfants étaient importants ou pas, des choses comme ça. Donc, quand vous écoutez les berceuses, vous avez un témoignage, surtout des femmes. C'est les femmes qui les chantaient essentiellement. Et là-dedans, tout d'un coup, premier couplet, fais dodo, cola mon petit frère. Quatrième couplet, ça va être papa est à l'auberge et maman est ici. Cinquième couplet, si c'est un garçon, et tu feras peut-être la même chose. Et tout d'un coup, vous avez le témoignage d'une femme qui se plaint d'être elle à bercer un enfant et le papa qui n'est pas là. Donc vous allez loin, vous allez très loin. Vous entendez ce que les femmes disent des hommes. Par exemple, vous avez des chansons qui s'appellent les mots mariés. Mots mariés, mots en vieux français, mal mariés. Et c'est des femmes qui décrivent leur mariage forcé. Mais il y a 300 ans, il y a 400 ans. Alors ça rapproche aussi des gens, puisqu'il y en a de par le monde, des jeunes filles qu'on marie avec force. Et tout d'un coup, une chanson du passé vous aide à comprendre le monde aujourd'hui, dans certains endroits du monde. Vous voyez, c'est tout ça. Et c'est d'autant plus, si vous voulez, judicieux qu'on est capable d'entendre tout ça. Donc la partie analyse des œuvres, interprétation, est essentielle. Alors maintenant, les historiens, c'est assez nouveau, s'emparent beaucoup de la chanson, comme témoignage, si vous voulez.
Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de chansons et je vous propose justement qu'on discute d'un titre en particulier qui fait partie de votre répertoire au hall de la chanson et qui est lié à l'histoire de l'esclavage. Quelques mots peut-être d'abord sur le contexte. Nous sommes le 8 février 1794 lorsqu'est chantée pour la première fois cette chanson. L'esclavage vient d'être aboli quelques jours auparavant par un décret de la Convention nationale et c'est donc à cette occasion que le citoyen Pierre-Antoine Augustin de Pisse décide d'écrire une chanson qui célèbre l'événement. Il s'agit de la liberté de nos colonies, également connues sous le nom de la liberté des nègres. Pour cette émission, Serge Hureau, vous nous avez proposé de la chanter directement au micro de Canal Academy, accompagnée de l'accordéoniste Noé Claire, qui fait d'ailleurs partie des artistes du hall de la chanson. Je vous laisse donc le micro et on se retrouve juste après.
Le saviez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre ? Qu'à son rang parmi les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était teint de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. De vrais bourreaux altérés d'or promettant d'alléger ses chaînes faisait pour les serrer encore des tentatives inhumaines. Mais contre leur complot pervers, c'est la nature qui proteste. Et deux peuples brisant leurs fers ont, malgré la distance des mers, fini par s'entendre de reste. Fini par s'entendre de reste. Qu'on dit les députés des Noirs à notre Sénat respectable, quand ils ont eu de leur pouvoir donné la preuve indubitable. Nous n'avons plus de poudre, hélas, mais nous brûlons d'un feu céleste. aider nos 300 000 bras à conserver dans nos climats un bien plus cher que tout le reste. Un bien plus cher que tout le reste. Soudain, à l'unanimité, déclarés à nos colonies qu'au désir de l'humanité, elles sont par vous affranchies. Et si des peuples oppresseurs contre un tel vœu se manifestent, pour amis et pour défenseurs, enfin pour colons de nos cœurs, songez que les Français vous restent. Tendez vos arcs, nègres marrons, nous portons la flamme à nos mèches, comme elle part de nos canons, que la mort vole avec vos flèches. Si des royalistes impurs chez vous portent la peste, vous dans vos bois, nous dans nos murs, cernons ces ennemis obscurs et nous en détruirons le reste. Et nous en détruirons le reste. Quand dans votre sol échauffé, il leur a semblé bon de naître, la canne à sucre et le café n'ont choisi ni gérant ni maître. Cette mine est dans votre champ, nul aujourd'hui ne le conteste. Plus vous peinez en l'exploitant, plus il est juste assurément que le produit net vous en reste. Américains, l'égalité vous proclame aujourd'hui nos frères. Vous aviez à la liberté les mêmes droits héréditaires. Vous êtes noir, mais le bon sens repousse un préjugé funeste. Seriez-vous moins intéressant aux yeux des républicains blancs? La couleur tombe et l'homme reste. La couleur tombe et l'homme reste.
Alors, la chanson que l'on vient d'entendre fait donc partie du répertoire du Hall de la Chanson. C'est une chanson écrite sur un air composé par François de Vienne. Son titre aujourd'hui peut surprendre et choquer. Lors de vos représentations, comment vous l'introduisez? Quelle contextualisation vous offrez aux spectateurs?
Alors déjà, les représentations, souvent où on le chante, ce sont des journées qu'on appelle les journées d'immersion, où la salle est pleine de lycéens, 160 lycéens. Bien souvent, dans ces lycéens, vous avez des lycéens qui sont noirs, d'autres métis, ils sont très intéressés par cette question-là. Alors d'abord, la première chose qu'on leur dit, c'est que le mot nègre, en ce temps-là, comme il y a 100 ans avec la revue Nègre, là, portée par Joséphine Baker, le mot nègre n'était pas un mot péjoratif, c'était même l'inverse. Ça veut dire le noir brillant. Et maintenant, il est devenu, c'est passible de loi. Quelqu'un vous traite de nègre, il faut absolument le traîner sur les bancs de la justice. Hein. Ça, c'est très important. C'est la première chose qu'on va dire à nos jeunes lycéens. Vous avez vu déjà, on prend une chanson du 18e siècle et les gens qui sont en face de nous aujourd'hui, ils ont 16 ans ou 15 ans. Ça, c'est l'esprit du Hall de la Chanson. Plus c'est ancien, plus nous voulons le donner à quelqu'un qui sera là encore dans 50 ans ou 70 ans. C'est essentiel, c'est ça, transmettre. Hein. C'est d'abord aux jeunes. Donc, alors, il y a cette précaution d'usage sur ce mot, et on y va, et on fait des citations latines sur l'origine des mots. Donc, on apprend quelque chose. Et avant tout, on la chante. La personne qui la chante, c'est très souvent quelqu'un de très jeune. On envoie la chanson, et ensuite on dit alors, qu'est-ce que ça dit? De quoi ça parle? Et on laisse s'exprimer notre public. Je vous assure que notre public comprend. Et quand à la fin, ils entendent aux yeux des républicains blancs, la couleur tombe et l'homme reste, ils sont debout. Ils sont debout comme devant une musique qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Alors évidemment, dans notre manière aussi de le jouer, quand on dit « Américain, l'égalité », on fait entendre des accents un petit peu jazz. Parce que le jazz, d'où vient-il? De qui nous vient-il? Des Noirs américains. Alors c'est une chose très passionnante pour nous. La chanson devient un concentré d'histoire. Et en sortant de journées comme celles que j'appelle les journées d'immersion, je vous assure que les professeurs disent « Ouh là là, mais là, merci, là j'en ai pour 6 mois. J'ai 6 mois de nourriture. » Alors les profs de lettres, les profs de musique, bien sûr, et les profs d'histoire. Alors, on parle de tout, on parle de cette chanson, mais on parle aussi de cet air, l'air d'un monsieur qui s'appelait De Vienne. C'était une sorte de comédie musicale, on n'appelait pas ça comme ça en ce temps-là, un vaudeville, où on prend, le principe du vaudeville, c'est on prend des musiques sur lesquelles on colle des paroles. Et ce vaudeville, c'est les Visitandines, c'est l'histoire d'un garçon qui veut retrouver sa fiancée, qu'on a renfermée dans un couvent. Alors, il s'habille en fille. Et il s'habille en fille et il rentre dans le couvent. Et il rencontre une sœur tourière. La tourière, c'est la sœur qui est à la porte. Et cette religieuse lui dit, mais qu'elle est vraiment jolie, cette jeune fille. Elle y voit peut-être. Et vous me rappelez un beau garçon. Et elle commence à raconter qu'elle a eu une histoire d'amour. Et lui, en rigolant, par ironie, dit, daignez m'épargner tout le reste. Vous n'allez pas me donner non plus les précisions de votre histoire d'amour. Eh bien, comment cet homme extraordinaire, Pise, dit « Moi, j'aime cette expression, daignez m'épargner tout le reste. » Parce qu'il y a des moments quand on nous décrit l'horreur, là, de l'esclavage, on dit « Non, mais j'ai compris maintenant, n'en dites pas plus, j'ai compris. » Et donc, comment, avec un petit truc rigolo comme ça, cet homme va utiliser ça comme une petite distance à la fin de chaque refrain pour nous décrire précisément que c'est à l'unanimité que ça a été voté.
Et alors justement, elle a été chantée la première fois le 8 février 1794 devant la section des Tuileries, qui était une section révolutionnaire. Est-ce qu'après le peuple s'en est emparé? Et quelle est l'évolution en fait de cette chanson dans la mémoire?
Alors elle a été d'autant plus célèbre dans la mémoire au sens presque de retenir, puisqu'en ce temps-là il n'y avait pas d'enregistrement, qu'elle utilisait une musique connue, sur laquelle par exemple Jean de Béranger au XIXe siècle a écrit une chanson qui s'intitule Les cinq étages, ça décrit la vie d'une femme, de la soupente du portier jusqu'au grenier. Et à chaque fois, elle monte d'un étage, elle progresse, et dans une vie, je dirais, de courtisane. Et c'est extraordinaire. Comment le même air, la même musique, le même timbre, comme on l'appelle, va servir à des chansons diverses. Donc, grâce à cette musique connue, les gens pouvaient se la chanter. Et ceux qui savaient lire, la lisaient. On se la chantait, on l'apprenait par cœur. Beaucoup de gens ne savaient pas lire. Ils apprenaient par cœur les chansons. Donc tout ça, depuis des siècles, est un procédé. Donc la chanson est partout. Dès qu'on veut faire passer quelque chose, bien rapidement, la chanson est là.
Dans un entretien avec la presse, vous avez dit qu'un titre devenait œuvre lorsqu'il pouvait être transmis par différents interprètes. Alors pour la chanson précédente, on a pu entendre des reprises comme avec le chanteur Marc Augeret, mais si la transmission peut s'effectuer avec des reprises, elle peut aussi se faire ressentir au travers de réécritures. C'est notamment le cas avec Le Petit Train, une chanson réécrite par le duo des Rita Mitsouko à la fin des années 80, qui s'appuie sur la chanson phare des années 50, énormément interprétée par André Claveau, qui avait collaboré. Et justement, les Rita Mitsouko proposent une réécriture qui fait du Petit Train de la chanson un symbole des trains de déportation de la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose qu'on écoute la version de 1988 et qu'on en discute juste après.
Thank you.
D'après vous, qu'est-ce qui a poussé les Rita Mitsouko à réécrire cette chanson en particulier ?
Il y a mille choses. D'abord, il y a une raison personnelle et une raison aussi collective. La raison personnelle, c'est que son père a été déporté à Catherine Ringer. Il a réussi à s'en sortir. Il est allé de camp en camp. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas simplement personnel. C'est aussi collectif. C'est à une période où les gens prennent vraiment la parole. On ne peut pas dire les juifs, ça concerne que les juifs, ou les femmes, ça concerne que les femmes, ou les homosexuels, ça concerne que les homosexuels. Ça serait trop facile. Non, ça concerne tout le monde. Et donc, c'est ce qu'elle veut nous dire. Mais ce qu'elle veut nous dire, en femme de sa génération, elle a dû naître dans les années 50, je pense, elle veut le dire comme une artiste. Soit elle dénonce, par exemple, elle pourrait dire « Oui, monsieur Claveau, c'est vrai qu'André Claveau, c'est un garçon qui était jeune pendant la guerre et qui a tout fait pour être engagé dans une radio, Radio Paris, hein, dont à Londres, Pierre Dac faisait une chanson qui disait « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, oui ». Alors, le savait-il, ne le savait-il pas, en tout cas, il jouait sa carrière. Et il devenait le monsieur qui passait tous les après-midi. Alors ensuite, si vous voulez, parce que la mémoire est là, c'est normal, pendant 2 ans après la guerre, il a été privé de radio. Il n'a plus fait d'émission de radio. Bon, après, il s'en est sorti, il a chanté des romances, il n'allait pas sur des terrains dangereux, que des chansons comme ça, d'amour, comme si l'amour était en dehors de tout. Et donc, il a chanté effectivement « Le petit train s'en va dans la montagne », comme ça, comme une chose qui plairait aux enfants. Et puis tout ça à travers la campagne. Et elle, évidemment, pour elle, petit train, parce que c'est ça, si vous voulez, les blessures de l'histoire, c'est ça, c'est incarné dans les corps. Tout d'un coup, voir des trains pour elle lui évoquait ça. C'est difficile de s'enlever ça de la tête quand il y en a eu des trains comme ça. Ou même descendre à la cave, parce qu'il y avait des bombardements. Les gens sont marqués dans leur enfance ou dans l'enfance de leurs parents. Évidemment. Hein. Et donc, comment parler de ça sans simplement faire, si vous voulez, une déclaration politique ? Elle, elle l'a fait avec son art. Alors, ce qui est frappant dans cette chanson, c'est qu'à des moments, on ne comprend pas. Et elle, on lui a posé la question à cette femme. « Pourquoi vous chantez si haut ?» Elle dit « Parce que pour moi, c'est tellement l'insupportable, le terrible à dire, que je ne peux le chanter que comme ça. » D'une manière un peu insupportable, parce que ça m'est insupportable. Donc un artiste, c'est quelqu'un qui ne fait pas travailler la raison. Il veut aussi troubler, choquer. C'est pour ça qu'on entend si fort. Et si vous écoutez bien cette chanson, on fait des phrases à des moments, on dit les enfants, les grands-parents, et on met un verbe pour finir la phrase. Et puis plus la chanson avance, plus il n'y a plus de verbes. On entend grands-parents, petits-enfants, et ça nous pose les vraies questions. Des petits-enfants, oui, morts. Des grands-parents morts. Et elle a choisi ça, d'en faire des espèces de bribes. Et à mesure qu'on avance, au début, c'est le petit train avec le soleil qui l'enflamme. Et à la fin, c'est les flammes. Et c'est le petit train qui apporte cette nourriture d'humain à la mort. Donc, c'est vraiment de l'art. D'ailleurs, on le sent, parce que l'art, c'est pas complètement comme on parle dans la vie. C'est toujours un peu différent. Un peu mis de côté autrement, déplacé, et tout d'un coup, on entend des choses. Cette chanson, elle est très longue, à une période pourtant où les chansons étaient courtes. Il fut un temps où les chansons étaient très, très longues. Très longues. La liberté des nègres, il y a plusieurs couplets. On en a enlevé quelques-uns. Les chansons étaient très longues, assez comparablement, par exemple, aux grandes chansons épiques d'Oum Kalthoum. En Égypte, qui peuvent durer 20 minutes. Les troubadours, c'était des chansons qui duraient une demi-heure. Donc ça veut dire c'est des morceaux plus ou moins grands. Et là, on sent que c'est un morceau plus long que les autres, avec beaucoup de musique, parce qu'elles disent « Mais qu'est-ce qu'on fait ? On est pris par ce rythme. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dedans ? La peur, l'angoisse. » Et puis il y a aussi « On sait ou on ne sait pas ». Tout d'un coup, on nous met en scène des gens qui voient passer le train, qui pensent à leur récolte, qui pensent à leurs histoires d'amour et qui savent ou qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir. Et alors, il y a un moment terrible quand on dit « il faut qu'ils voient ». Personne ne croit, il faut qu'ils voient. Donc là, on est vraiment devant autre chose qu'une chanson, si vous voulez, qui témoigne des années 80. Ça va bien au-delà. Et c'est une chanson qui interroge. Alors évidemment, vous me posiez la question tout à l'heure, là, on bascule vraiment dans l'art. Si une chanson reste simplement la vignette d'une époque, c'est de la sociologie. Mais la chanson, c'est plus que ça. Là, on est vraiment dans de l'art, la conservation d'un objet d'art.
Justement, vous présentez tout à l'heure comme le directeur du hall de la chanson, mais vous êtes aussi artiste, chanteur, on l'a entendu. Notre prochaine question s'adresse donc à vous en tant qu'individu revêtant ces deux casquettes. Qu'est-ce qui peut pousser un chanteur ou une institution comme la vôtre à réinterpréter ou réécrire une chanson de manière plus générale ?
Alors nous, on ne réécrit pas les paroles. Les paroles, on les garde. Parce que là, évidemment, là, on détourne une œuvre. Et c'est passible de loi, d'ailleurs, de détourner une œuvre. On détourne une œuvre en changeant les mots. Nous, ce qui bouge, c'est même pas la mélodie, c'est les arrangements. Et donc, si vous voulez, on ne détourne pas, au contraire. Si vous changez un peu la musique ou l'emballage, sans changer les mots ni la mélodie, vous permettez, au contraire, qu'elle ait une vie encore plus grande. Et c'est vrai qu'une chanson dont on peut parler longtemps et à l'infini, qui deviennent intemporelles, c'est les meilleures chansons.
Revenant au sujet de la réécriture, on pourrait se demander si à force de réinterpréter une chanson, en la réécrivant par exemple, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'effacer sa mémoire plutôt que de l'enrichir à certains égards ?
Réécrire les arrangements, entendons-nous, c'est
mais
pas réécrire.
Réécrire les paroles.
Réécrire les paroles, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire utiliser une musique parce qu'on ne sait pas écrire la musique sur lesquelles on va coller des paroles à nous, c'est une chose. Mais vous prenez une chanson et vous changez un mot ou un autre, l'œuvre perd son équilibre.
Dans le cas d'Erita Mitsuko, par exemple, qu'on vient de voir.
Oui, mais eux, ce qu'ils ont pris, c'est l'air en fait, du petit train d'André Claveau. Il faudrait l'écouter en détail, mais c'est devenu un prétexte. Vous voyez, c'est le prétexte. Et ensuite, il y a le texte qui vient avec un jeu de mots. C'est le prétexte et en avant, bien sûr. Mais ça s'est fait beaucoup. Pendant des siècles, par exemple, quand on chantait tout à l'heure « La liberté des nègres » sur un air de Devienne, oui, on peut dire qu'on prenait son air. Mais en ce temps-là, c'était permis. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Si vous faites ça, la SACEM vous tombe dessus et à juste raison.
Alors, si au hall de la chanson, votre objectif premier est de sortir de l'oubli des chansons, il vous arrive néanmoins de parfois mettre en avant des titres qui, dès leur sortie, ont rencontré un véritable succès. C'est par exemple le cas de « Mon mari est parti » d'Anne Sylvestre. Sortie en 1961, la chanson s'inscrit dans le contexte de la guerre d'Algérie. À l'époque, Anne Sylvestre est assez peu connue du grand public. « Mon mari est parti » est d'ailleurs l'une de ses chansons qui va la faire connaître. Dedans, la chanteuse évoque le départ d'un mari, parti elle ne sait où et avec tous les autres maris des environs. Pour reprendre quelques paroles, je vous propose maintenant que l'on écoute Yasmine Adjali, artiste du hall de la chanson, qui pour l'émission va nous interpréter « Mon mari est parti », accompagnée de l'accordéoniste Noé Claire. On les écoute et on en discute juste après.
Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où. Je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux. La veille nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Parti un beau matin d'automne, le printemps est ici. Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seule au logis. Parti avec lui tous les autres maris des environs. Le tien Éléonore et vous Marie le vôtre et le tien Marion. Je ne sais pas pourquoi et vous non plus sans doute. Tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon. Les tambours sont venus nous jouer nos bades. J'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade. Moi, je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume, il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune et se sera nippé. Dans son jardin recommencent à poindre. J'y ai mis des iris. Il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends, et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve. Elle pleure beaucoup. Et Léonore s'est faite une robe neuve et noire et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour revienne, je vais près de l'étang. Je reste près du bord, je joue et me promène. Je parle à mon enfant. Marie est partie un beau matin d'automne, partie je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans.
C'est donc sur une note de désespoir que se termine ce titre d'Anne Sylvestre, dans lequel on suit le parcours d'une femme enceinte, dont le mari est parti à la guerre et dont elle attend le retour. Serge Roux, un mot d'abord peut-être sur l'originalité de la chanson à l'époque, puisque pour une fois, Anne Sylvestre va faire entendre le point de vue des femmes, et plus précisément celui des veuves de guerre.
Déjà, Anne Sylvestre, elle est dans les premières femmes autrices, compositrices, interprètes. Et quand on lui faisait cette remarque, il y a une autre, au même moment, qui s'appelait Barbara.
Oui, avec
quand
veuve
on leur
de
faisait
guerre.
L'une et l'autre cette remarque, elle disait non, avant moi, il y a Nicole Louvier, donc une illustre inconnue. Mais est-ce que chanteur, c'est obligatoirement être connu, voyez ? Mais elle, elle connaissait. Elle l'avait entendue à la radio, une très jeune fille qui s'était présentée au concours de la SACEM en 1951. Et elle a chanté ça, une chanson qui a gagné un prix. Elle, en entendant ça, elles ont dit mais... Voilà, mais c'est ça que je veux faire. Hein ? Et donc, elles ont entendu ça à la radio, qui était un objet de propagation de la chanson. L'une et l'autre très différentes. Ça veut dire Anne Sylvestre, une fille de la bourgeoisie, qui a vécu une chose difficile, qui s'est beaucoup dite. Et c'est pas la première chose qu'il faut dire d'elle, mais et bien sûr, elle voulait s'en démarquer. C'est que son papa a été tenté, et plus que tenté, par la collaboration aussi. C'est un peu la honte, mais elle est artiste, elle change de nom. Et donc cette femme commence à être connue doucement dans des cabarets. Et alors elle était allée un peu à la fac, à la Sorbonne. Donc elle savait écrire, elle aimait la musique, elle avait appris dans une institution religieuse qui l'avait beaucoup protégée justement dans cette période difficile du procès de son père. Et d'ailleurs la mère supérieure de cette institution religieuse était elle-même une résistante. Et quand on lui a dit, mais cette fille-là et sa sœur, il faut les enlever de l'école, c'est des filles de collabo, elle a simplement dit, ben, si je dois en garder deux, c'est celle-là. Donc elle a vécu des choses assez fortes, et elle dit qu'il lui est resté de cette éducation la musique, le chant grégorien, comment poser des paroles sur des musiques très simples, qui est la force de ce type de chant. Et elle a commencé son travail. Bon, elle, quand on parle de cette chanson et qu'on lui dit, que c'est l'illustration de la guerre d'Algérie. Nous, on l'a mise dans un spectacle que nous avons fait sur les chansons de la guerre d'Algérie en français, en arabe et en kabyle, donc de tous les côtés, qui était magnifique. D'ailleurs, Yasmine, qui sort de notre école cette année, qui a fait le Conservatoire supérieur d'art dramatique, qui a fait aussi du lyrique, elle est incroyablement pluridisciplinaire et douée. Et donc, quand on a découvert cette chanson, ce qui nous a frappé, c'est que Anne Sylvestre disait non, c'est une chanson sur toutes les guerres. Parce que les femmes n'ont jamais déclaré la guerre. Jamais une femme n'a déclaré la guerre. Et la question qu'elle pose là-dedans, c'est mais vous voulez qu'il n'y ait plus d'hommes du tout ? Et vous avez entendu que dans cette chanson, elle parle à toutes les femmes. Il y a des femmes qu'elle tutoie, donc qui sont comme elle, si on considère que c'est une paysanne qui parle. Et elle vous voit, une autre femme qui est peut-être la femme du châtelain, ou je ne sais quoi. Tout d'un coup, là-dedans, il y a... Qu'est-ce qui se passe pour les femmes pendant cette guerre ? Est-ce qu'on fait comme s'il n'y avait pas ? Et là, ça témoigne d'une femme qui ne va pas très bien, qui est assez déprimée, puisqu'elle dit « Tiens, on m'a ramené son costume, c'est sûrement qu'il a trouvé de plus beaux habits. » Alors qu'il y a tout le rituel, quand on apporte les vêtements, c'est-à-dire « Votre mari est mort, elle ne veut pas voir. » Elle pose cette question de « Ne peut pas voir, est-ce que c'est résister ?» Ça va très loin, cette chanson, très fin. Et à la fin, c'est vrai qu'à la fin, on entend que peut-être qu'elle va se jeter à l'eau. Peut-être, mais elle parle de l'enfant. Alors, il y a tout là-dedans. Il y a « Je porte un enfant », là-bas, c'est « Vive la mort », les gens se donnent la mort dans les guerres, les hommes. Et moi, je suis une femme, je ne suis pas là pour donner la mort. Il y a beaucoup. Mais elle, quand on veut lui dire que c'est une chanson qui parle que de ça, elle dit non. Hein? Alors, si vous voulez, c'est pareil, quand elle avait fait une chanson ensuite qui a été très connue, « Non, tu n'as pas de nom », à chaque fois qu'on parle de l'avortement, on fait entendre cette chanson, elle dit « Mais non, non ». Ce n'est pas une chanson sur l'avortement, c'est une chanson sur le choix. Vous voyez, un artiste et une artiste, c'est fait pour un peu embêter les gens et dire « ne me réduisez pas ». Alors, ce qui est fort dans cette chanson, c'est ça. Et elle a une ironie incroyable, cette femme, parce que cette chanson n'a pas été recommandée par la radio. On ne l'a pas interdite, mais on a dit que sur les chaînes publiques, il n'était pas recommandé qu'on la passe. Et d'une manière ironique, elle a dit « oui, moi, je n'ai même pas le droit à interdit ». C'est-à-dire, là encore, même dans la guerre des opinions, c'est toujours les hommes qui gagnent. Nous, c'est tellement rien ce qu'on fait qu'on dit, non, on ne s'est pas recommandé, mais bon, ça n'a pas plus d'importance que ça. Et elle a une importance énorme. C'est une femme, Anne Sylvestre, qui est vraiment comparable, d'ailleurs, la pauvre à ses débuts, on l'a comparée beaucoup à lui, qui l'a soutenue, d'ailleurs. Elle est comparable à Brassens. Et quand elle a commencé, une journaliste lui dit, vous êtes un peu une Brassens en jupon. Elle a dit, mais moi, je pourrais vous répondre, non, c'est Brassens qui est une Anne Sylvestre en slip. Vous voyez, c'est cette manière de beaucoup d'ironie. Elle a beaucoup d'ironie.
Vous avez évoqué l'universalité de la chanson. Alors, justement, si par sa date de sortie en 1961, elle s'inscrit dans le contexte de la guerre d'Algérie, il n'en reste pas moins que son message reste universel. Est-ce que, selon vous, justement, l'universalité de cette chanson, elle contribue à créer des mémoires plurielles ?
Oui, parce que d'autres gens peuvent se reconnaître. Est-ce que des femmes d'autres pays aujourd'hui qui sont en guerre se reconnaissent dans cette chanson? L'important, c'est d'interroger les gens avec des chansons. Ce serait intéressant de la faire entendre aujourd'hui. Si vous voulez, si on veut vraiment que les chansons durent, il faut essayer d'éprouver leur côté universel et intemporel en les proposant à entendre et en en parlant. Chanson, c'est un objet formidable de commentaire aussi.
Vous dites souvent que la chanson française est un patrimoine à faire vivre et à transmettre. Et justement, on pense souvent que pour transmettre une chanson, il suffit de la chanter. Est-ce d'après vous suffisant ? Est-ce qu'il existe d'autres moyens ?
Déjà, on l'a dit ensemble, c'est la chanter et la rechanter. Hein, c'est-à-dire pas obligatoirement dire « on écoute le disque ». Par exemple, on parlait d'Anne Sylvestre, elle peut être un peu agaçante. Anne Sylvestre, ça va vite, hein, vous savez, rendre une chanson rébarbative, ça va très vite considérer « Ah, j'étais pas née, ça me concerne pas ». Donc, si on veut qu'elle vive, il faut la chanter autrement. Je pense que ça, c'est ce qui fait que ça vit. Il faut faire vivre ça comme des répertoires. Et ça veut dire pas simplement se dire « Allez, j'ai fait un spectacle, ça a bien marché, c'est quoi le prochain ?» Il ne faut pas trop se dire vite c'est quoi le prochain. Il faut leur donner de la vie à ces spectacles vivants. Et je pense qu'il faut voir les gens sur la scène pour se rendre compte de la portée d'émotion d'une chanson. Simplement les entendre, ça ne suffit pas. Et encore une fois, je pense qu'il faut même les arracher à ceux qui les ont créés. C'est pas parce que quelqu'un a créé une chanson qui est le meilleur interprète de ça et celui qui le transmet le mieux.
Et justement, aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence artificielle ou les hologrammes, est-ce que pour vous, c'est une transmission comme une autre ou est-ce que c'est dangereux ?
Faudrait des gens qui sont dans l'art de l'hologramme et qui créent un autre type d'art avec ça. Oui, c'est possible, mais ça ne peut pas remplacer. C'est quelque chose d'autre, de nouveau. On peut sûrement faire d'autres choses, faire de très, très belles choses. Quand le cinéma est apparu, c'est devenu un art de plus. Ça peut être un art de plus. Mais si c'est considéré simplement comme de la reproduction, vous savez, un peintre, il ne reproduit pas simplement. Un photographe, il ne reproduit pas. Il bouge quelque chose, il nous montre son regard à lui. Moi, j'ai tendance à pas avoir peur, si vous voulez, des choses nouvelles. C'est bien qu'on n'ait pas eu peur de l'imprimerie, par exemple, vous voyez.
Merci Serge Roux d'avoir pu nous éclairer sur le lien si singulier qui existe entre chanson et mémoire.
Oui, merci beaucoup d'être venu au micro de Canal Academy. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur les actualités du hall de la chanson ?
Ben oui, alors à la rentrée, nous, on va d'abord avec une toute petite ville de l'Eure, Bernay, où nous allons créer un bal de la libération. Et ils sont venus vers nous en disant « Oui, on a fait un très bon bal l'année dernière avec vous pour célébrer les 60 ans de la disparition de Piaf qui avait grandi dans cette petite ville. Est-ce qu'on ne pourrait pas refaire ça ?» C'est-à-dire que là, vous avez un orchestre auquel on ajoute des jeunes musiciens du conservatoire de Bernay et de l'agglomération Terre de Normandie, des danses qui sont créées aujourd'hui, des danses contemporaines, ce qui est aussi une manière d'empêcher de mourir les œuvres, des danses créées aujourd'hui. Donc ça, c'est notre actualité qui va être forte et qui va développer quelque chose qu'on commence le 25 juin. Le 25 juin, on inaugure une exposition, 10 tableaux de Catel, qui est une remarquable femme qui crée des gros albums. C'est pas des bandes dessinées, c'est à la fois ça et autre chose, sur des grandes figures féminines. Et puis, il y a une chose aussi très importante qui n'est pas du tout rébarbative, c'est les présentations de nos étudiants. C'est les travaux de sortie. Et tout le monde va faire son duo ou son trio. Venez, c'est la meilleure façon de comprendre notre esprit et de passer des soirées formidables.
Et on mettra tous les liens sur la page émission. Merci encore, Serge Roux.
Merci à vous.
Merci, Serge Roux.
Merci.
Canal Académie.